J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs. Le président Félix Tshisekedi avait annoncé lors de la 20e réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre le début de l'évaluation des membres du gouvernement. Faisant suite à cette annonce du chef de l'État au cours de la 21e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 8 novembre, dans sa communication, la Première ministre a appelé tous les membres du gouvernement, chacun à ce qui les concerne, à présenter les rapports de leurs activités depuis la première réunion du Conseil des ministres. Sur le compte rendu du porte-parole du gouvernement, la Première ministre Judith Suminwa a présenté au cours de cette réunion un outil d'évaluation basé sur les orientations du chef de l'État et permettant de faire la traçabilité des directives présidentielles. Cet outil va permettre de répertorier les actions planifiées, les responsabilités assignées, les délais impartis et les résultats obtenus. Il constitue donc un instrument précieux pour mesurer les progrès réalisés dans l'application des politiques gouvernementales et dans l'identification des obstacles éventuels à la mise en œuvre. Faut-il rappeler le programme du gouvernement est basé sur les 6 engagements du chef de l'État lors de son investiture pour son second mandat. Comment commentez-vous cette actualité? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook par les auditeurs. Pour aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le 09 716 80 79. Deps Vita est à la mise en nom de ce magazine. Julie Fezabongonda sur la réalisation et sur la coordination micro, c'est Marcel Ngomambala. Toutes et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la PC, votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'évaluation des membres du gouvernement. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le président Félix Tshisekedi avait annoncé lors de la 20e réunion du Conseil de ministres du vendredi 1er novembre les débuts de l'évaluation des membres du gouvernement. Et faisant suite à cette annonce du chef de l'État au cours de la 20e réunion du Conseil de ministres de ce vendredi 8 novembre, dans sa communication, la Première ministre a appelé tous les membres du gouvernement, chacun à ce qui les concerne, à présenter les rapports de leurs activités depuis la première réunion du Conseil des ministres. Et selon le compte rendu du porte-parole du gouvernement, la Première ministre Judith Suminwa a présenté au cours de cette réunion un outil d'évaluation basé sur les orientations du chef de l'État et permettant de faire la traçabilité des directives présidentielles. Cet outil va permettre de répertorier les actions planifiées, les responsabilités assignées, le délai imparti et les résultats obtenus. Constitue donc un instrument précieux pour mesurer les progrès réalisés dans l'application des politiques gouvernementales et dans l'identification des obstacles éventuels à la mise en œuvre. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Nous vous disons merci. Et pour commenter les sujets, nous aurons en ligne Frédéric Amani. Il est analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Lubumbashi. Frédéric Amani, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Lubumbashi. Aujourd'hui, avec vous, on va débattre dans ce magazine, en tout cas, de l'évaluation, comme l'avait annoncé le chef de l'État, des membres du gouvernement. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer en tant qu'analyste politique?
Bien, merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat, cher Marcel, et merci de la parole accordée. Je pense que l'annonce du président de la République par rapport à sa volonté d'instruire Madame la Première ministre, chef du gouvernement, d'initier l'évaluation des membres du gouvernement est une bonne chose, parce que il n'y a pas de gestion de manière efficace sans, n'est-ce pas, un contrôle ou une évaluation. Et l'importance d'une évaluation ou d'un contrôle, c'est pour se rassurer si les résultats sont conformes, n'est-ce pas, aux objectifs attendus. Et nous pensons que cette évaluation ne sera pas, n'aura pas de complaisance, et de complaisance dans la mesure où, c'est vrai, les différents membres du gouvernement sont issus de différentes familles politiques, eh bien, peut-être pour ne pas frustrer tel camp et non tel autre, on risque, n'est-ce pas, de se contenter de cette évaluation, mais qui ne va pas aller au fond, et malheureusement, ce sera le peuple qui va en souffrir. Et un autre élément, je pense que cette évaluation viendra permettre à ce que, par rapport aux 6 piliers des promesses du président de la République lors, n'est-ce pas, de son investiture, soient en train d'être matérialisés. Parce que c'est sur base de la réalisation de ces 6 promesses qu'on va juger le bilan du président Félix, soit positif ou négatif. Dans les cas contraires, on doit éviter de se tromper, de penser que la réussite du mandat du président de la République viendra, n'est-ce pas, d'ailleurs, en dehors de ses promesses tenues lors de la campagne ou, n'est-ce pas, tenues lors de la prestation des serments. Et je pense que le gouvernement, que ce soit Madame la Première Ministre ou la Présidence et d'autres membres du gouvernement, doivent, n'est-ce pas, mettre l'intérêt général au lieu, n'est-ce pas, de prioriser les intérêts égoïstes, c'est-à-dire cette évaluation est attendue et nous voulons voir qui a fait quoi et comment on doit, n'est-ce pas, permettre à ce que le pays aille de l'avant.
Voilà, il y a déjà beaucoup de réactions par rapport à cela. Je m'en vais déjà lire quelques réactions. Vous pouvez d'entrée des jeux réagir. Il y a Kaïté Kalunga qui nous a écrit depuis la ville de Lubumbashi. La RDC a besoin des gens pleins de performances pour relever certains défis qui stoppent l'émergence de notre plus beau pays. À ce stade, tous les ministres sont appelés à travailler ensemble pour que les avancées soient énormément significatives. Le constat fait par la population est que depuis que le gouvernement a été investi, il n'y a qu'un faible nombre de ministres qui se démarquent. Cela inquiète trop la population parce que les ministres sont au moins 53, mais d'autres n'ont aucun rapport valable à présenter devant la population ou à l'Assemblée nationale des ministres qui doivent relever l'effectivité de ce gouvernement, mais lorsqu'il se laisse faire, cela pourra amener à la cotation du gouvernement d'une moyenne de 2 sur 10. Surtout, nous saluons l'interpellation de la Première ministre à tous les ministres d'avoir réveillé ces ministres à cette léthargie et veilleté. Il y a également Junior Chizainga qui nous écrit ceci. Je soutiens cette idée d'évaluation car ça permettra d'avoir une idée sur le plan d'action de tous les ministres. La question principale est de savoir quelle politique utiliser par le gouvernement central pour contrôler ces derniers à réaliser l'objectif dans les temps et dans l'espace. Quels sont les piliers qui ont déjà trouvé un gain de cause par la société et quels sont ceux qui posent encore problème afin de revoir la probabilité. Voilà, ça c'est déjà des réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Il y a beaucoup de réactions par rapport à ces sujets. Une autre réaction que je m'en vais lire rapidement, c'est celle de Georges Kilangalanga. Nous saluons cette volonté du chef de l'État qui vise à évaluer les membres du gouvernement. Cependant, nous demandons si cette démarche aura quelle suite. Nous remarquons qu'il y a des ministres qui n'ont jusque-là rien fait. Faut-il le rappeler que le président avait manifesté le même souhait d'évaluer le gouverneur des provinces après chaque 3 mois, mais on n'a jamais vu une moindre activité dans ce sens. Nous pensons que l'évaluation régulière des membres du gouvernement leur permettrait d'être plus productifs chacun dans le domaine qui les concerne si cela était une pratique institutionnalisée. Et c'est la responsabilité de la Première ministre de coordonner les actions des membres du gouvernement, mais chacun fait ce qui lui plaît, souvent au détriment du peuple qu'ils sont censés servir. Voilà, vous l'avez dit, Frédéric Amani, il s'agit d'un gouvernement issu de la plateforme Union Sacrée. Est-ce que vous ne pensez pas que cette évaluation, comme vous l'avez dit, puisse donner lieu à certaines supputations du moment où il y aura des ministres d'un tel parti ou un autre parti qui pourront peut-être être mal évalués?
Tout à fait, cher Marcel. Il vous souviendra, je vous remercie encore une fois pour l'honneur, la Radio Capi, vous avez organisé en juin, avant ou pendant l'investiture de Madame Souminwa, on avait organisé un débat autour de ça et je crois avoir dit que Je pense qu'on doit privilégier la politique de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense que les compétences, nous n'en manquons pas dans ces pays. On a des hommes, des femmes compétents, mais faudrait-il les dénicher, les repérer pour leur accorder la chance de travailler pour la nation et de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai, ça risque de créer des supputations dans des familles politiques. C'est ici l'occasion d'interpeller les différentes familles politiques de l'Union sacrée lorsque on doit déposer des noms pour qu'ils briguent un certain nombre de responsabilités, il faudrait que ce soit des hommes, des femmes capables, des hommes qui doivent travailler pour la nation et non des hommes parce qu'il est neveu, cousin, petit frère ou je ne sais pas, une parenté de tel ou tel. Je crois que ça pose problème. Je ne refuse pas un neveu, un petit frère, un fils de peu. Briguer un poste, mais faudrait-il qu'il soit compétent, qu'il soit capable de travailler pour l'intérêt général. Et moi, je pense que l'évaluation est très importante, surtout dans les cas de notre pays, pour évaluer, parce que, je le répète, le président de la République sera évalué sur base de ses promesses tenues. Lorsque les promesses du président de la République ne seront pas matérialisées, on peut ne pas le dire à haute voix, ce sera un échec. Or, je crois que c'est une très bonne initiative pour le président de la République d'engager, n'est-ce pas, cette évaluation. Il faudrait que ça soit une évaluation sans complaisance, une évaluation qui va apporter des résultats escomptés. Mais si on va se contenter de parler d'évaluation et qu'à la fin, on doit mettre les recommandations de cette évaluation dans les tiroirs, eh ben, c'est le peuple qui continuera, n'est-ce pas, à en payer les lourds tributs. Et un autre élément pour terminer, je pense que cette évaluation aussi devrait être, n'est-ce pas, suivie d'un cahier des charges de chaque ministre. Je crois l'avoir dit en juin lors de l'investiture. Il est vrai qu'on doit travailler pour matérialiser la vision du chef de l'État, mais chaque ministre aussi devrait montrer comment il va s'y prendre pour matérialiser, n'est-ce pas, les objectifs dans le secteur de son ministère. Voilà pourquoi nous interpellons le Parlement comme la représentation du peuple, de travailler en sorte que, sur base du programme du gouvernement et sur base de la présentation de chaque ministère sectoriel, eh bien, le Parlement doit sauter dessus pour interpeller lorsque on constate qu'il y a des failles dans la matérialisation de tel ministère ou tel autre ministère. Voilà comment on peut résoudre cette question de supputation et de permettre à ce que ce soit tel parti ou tel autre, ils doivent unir leurs efforts pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'intérêt général et que ce soit la République qui gagne et non un camp contre l'autre et non, n'est-ce pas, telle famille politique et contre l'autre.
Voilà, merci Frédéric Amani. On revient à vous, on va ouvrir le standard où il y a déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir. La Mossobi, 6 mois, qui nous appelle des boucs à vous et Maître Patrick Odiaki Albumbashi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Nous parlons aujourd'hui de l'évaluation, dans tout cas qui est le début de l'évaluation de membres du gouvernement tel qu'annoncé lors de la 20e réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre dernier par le président de la République. Si vous voulez intervenir, le numéro d'appel c'est 09 716 80 79.
Parole aux auditeurs.
Amos Missimois, vous nous appelez depuis Bukavu, vous avez la parole.
Merci Marcel, je tiens depuis ma bourre à saluer les nombreuses auditrices et auditeurs de la radio Okapi, mais aussi l'invité. Par rapport à la thématique, évaluation des membres du gouvernement tel que le chef de l'État l'a proposé en tenant compte des 6 piliers de son programme, c'est une bonne initiative. Mais la première question qu'il faut se poser, en nommant ce ministre, quels étaient les critères sur lesquels on a tenu compte? Parce que comme l'invité venait de le dire, nous avons tous fustigé la complaisance que nous avons remarquée dans la nomination de ces ministres. Vous vous souviendrez, Marcel, que nous avons eu à dire que ces ministres n'ont pas été nommés sur base de la compétence ou de l'expérience. Beaucoup d'entre eux, même ceux-là qui avaient échoué dans le gouvernement précédent, ont été nommés sur base des relations amicales, familiales et autres. Beaucoup de gens ont eu à les dénoncer, mais on ne nous a pas écoutés. Et aujourd'hui, quand on peut nous parler de l'évaluation de ce gouvernement ou des membres de ce gouvernement, par rapport aux six piliers du président, par rapport à la mission de la première ministre Judith Suminwa, et la réalité qui se vit sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Rien ne va presque dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sécuritaire, que ce soit dans le domaine du social, dans tout. Je prends seulement la question de l'éducation de nos enfants. Deux mois après la rentrée scolaire, c'est là que d'autres viennent de commencer à étudier. Tout ça prouve à suffisance que beaucoup de ministres ont été nommés sans qu'ils ne comprennent qu'est-ce qu'ils iront faire. Mais c'était juste sur base de la complaisance, comme l'invité venait de le dire au studio. La question sécuritaire mondiale, les infrastructures, la création des emplois, qu'est-ce qui va au pays? La diplomatie, presque rien ne va. Alors, si on nous parle de l'évaluation de ces ministres, moi je pense que c'est une stratégie, c'est moi qui réfléchis ici, c'est une stratégie du président. Comme déjà, il y a un remaniement qui est pressenti pour vouloir savoir qui sont prêts pour le changement de la Constitution, comme le régime en place a compris qu'il a totalement échoué. Toutes les promesses qu'il a faites au peuple congolais, rien ne marche. Maintenant, il veut flouer le peuple en voulant changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et c'est là qu'ils veulent maintenant préparer certains membres du gouvernement en disant qu'on va évaluer pour un remaniement stratégique.
Voilà, merci Amos Bissima, vous l'avez bien dit, hein, c'est vous qui pensez comme ça que peut-être c'est une stratégie du chef de l'État, mais du moins on retient lors du compte-rendu du porte-parole du gouvernement par rapport à la 20e réunion du Conseil des ministres du vendredi 8 novembre dernier, l'outil d'évaluation présenté par la première ministre va permettre de répertorier les actions planifiées, les responsabilités assignées, les délais impartis et les résultats obtenus. Il constitue également un instrument précieux pour mesurer le progrès réalisé dans l'application des politiques gouvernementales et dans l'identification des obstacles éventuels à la mise en œuvre de tout ce qui a été comme recommandation lors du conseil de ministres. Merci à Amos Bissima d'avoir appelé depuis Bukavu. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour monsieur Amani, à tous les auditeurs de la radio Capi et à tous qui prendront parole. Et merci de m'associer à ce niveau du débat, tenant compte du projet, si vous voulez, du désir manifesté par les gouvernements de pouvoir évaluer les gouvernements. En tant que citoyen congolais, je pense que cela rentre dans le cadre de l'arrêt d'évabilité et même des principes directeurs de management politique également. Il faut parler de l'arrêt d'évabilité, il faut parler de la transparence, mais aussi de la évaluation ou de la réévaluation. Le chef de l'État a ses soucis également, mais faudrait-il, est-ce que autour de lui, les collaborateurs, voire même le ministre ou le membre du gouvernement, certains, sont-ils d'accord avec ces principes directeurs ou ces principes directeurs de management politique pour s'auto-évaluer ou pour évaluer une évaluation collective? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses également, est-ce que cette évaluation sera-t-elle sectorielle ou collective? Si c'est collective, là, je pense qu'il y a des erreurs, il y a vraiment du sérieux à faire dans cette évaluation collective. Mais si c'est sectoriel, je pense également qu'il y a quand même certains ministres qui se sont distingués et que le peuple congolais est d'accord. Et il y en a d'autres également qui travaillent. Il faudrait mettre en place des critères objectifs pouvant permettre à ce que tel ministre a fait ça, tel ministre a fait ça. Mais je reste dubitatif quant à la suite logique de l'application des résultats ou de résultats issus de cette évaluation collective ou sectorielle. Pourquoi? Rappelez-vous, Marcel, monsieur Amani également, Frédéric, le chef de l'État avait annoncé autrefois que les évaluations avec les gouverneurs de province devaient se faire chaque trois mois. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Il n'y a qu'une seule fois où le chef de l'État a tenu cette promesse pour évaluer les gouverneurs. Il y a autant de mois que les gouverneurs n'ont pas eu à passer par l'évaluation aujourd'hui. Aujourd'hui, on annonce qu'on va bientôt organiser l'évaluation du gouvernement. Est-ce que ça serait également le cas avec l'annonce faite dans les chefs de gouverneurs et évaluation avec les gouverneurs? Et est-ce que cette évaluation sera-t-elle objective
Est-ce que ça ne sera pas protocolaire, tout simplement, symbolique, pour dire qu'il y a eu évaluation? Et si ça sera réel, il y aura sûrement des recommandations. Est-ce que ces recommandations seront-elles mises en place? Autant de questions que nous nous posons, mais avec l'expérience politique que nous avons, je pense que le vrai mauvais départ a commencé d'emblée par les castings. Je l'ai dit, les castings, parce que les partis politiques ont eu à recommander certaines personnes également qui n'avaient pas, dès le départ, les critères d'être gouvernant, d'être député, d'être, j'allais dire, ministre également. Mais ils sont là aujourd'hui parce que les partis politiques, parce que telle obédience les a envoyés au gouvernement. Est-ce que le gouvernement, les chefs de l'État, seront-ils en mesure de sanctionner, voire même penser au remaniement? C'est autant de questions. Je pense que nous devons plus quitter de la théorie, évaluer de manière sincère, c'est dire des vérités, et essayer de voir également dans les domaines éducationnels, dans les domaines infrastructurels et dans les domaines économiques, les taux d'échange, les domaines sécuritaires, toutes ces questions-là doivent être analysées du point de vue objectif pour permettre à ce que l'évaluation tant entendue soit réelle. Mais à défaut de cette évaluation et du sérieux, du caractère sérieux, je pense que nous allons revenir encore dans les mêmes choses que nous avons eu à connaître dans les fois passées. Par exemple, dans les domaines d'emploi. Est-ce que la première ministre peut-elle évaluer aujourd'hui sur 6,5 millions d'emplois que les chefs de l'État s'étaient promis de pouvoir créer? Où en sommes-nous aujourd'hui? Combien d'emplois ont été créés? Dans quel domaine? Quelle catégorie de personnes ayant bénéficié ces emplois qui ont été créés? Je pense que ce sont des questions qui devaient se poser. Sur autant d'infrastructures ou des routes qui étaient promises pour la construction des routes, à ces jours, Kalamba Mbuji, Mbujimayi Kabinda, est-ce que ces routes sont-elles? Lubumbashi, Tanzanie, c'est autant de questions. L'achat des bateaux. Non, il faut se poser des vraies questions, Marcel. Et sinon, nous allons essayer de d'errer et parler.
Alors, Maître Patrick Odia, il faut se poser des vraies questions et également savoir qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à tout ce qui a été pris comme directive soit de la part du chef de l'État, soit des recommandations faites lors de tous les conseils de ministres. Donc on estime que certainement vous avez dit dès le départ vous encouragez cette évaluation, mais vous voulez qu'il ait dit sérieux dans cette évaluation de manière à ce que les observations qui seront faites puissent donner lieu à améliorer les choses dans la manière de gouverner ou encore d'atteindre le résultat. Rapidement, oui.
Je voudrais citer. En disant les résultats ici de cette évaluation collective ou sectorielle devra aboutir à un remaniement. Il y a des ministres qui sont là, qui bénéficient de l'argent de l'État, du Trésor public, mais qui ne font absolument rien. Je ne vais pas citer les ministres ici, Marcel. Il y a des ministres qui ne font absolument rien. Et on se demande, comment s'est-il retrouvé ministre dans le gouvernement Soumouina? Nous demandons, donc, du caractère sérieux, oui, mais à la fin, des sanctions doivent être prises. Et quand je parle des sanctions, je parle d'un remaniement, d'un quota aussi représentatif des hommes compétents ayant une volonté
voilà,
de pouvoir
merci beaucoup, changer les choses. Merci beaucoup, Maître Patrick Odia, depuis le Lubumbashi. On reste à Lubumbashi et on va accorder la parole à Maître Mashaka. Maître Mashaka, vous avez la parole.
Bonjour, Monsieur Marcel. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole, Monsieur Marcel Ngombombala. Vous savez, Monsieur Marcel, faire l'évaluation, c'est bien. Mais avant l'évaluation, c'est le suivi qui devrait précéder l'évaluation. Puisque quand on donne à quelqu'un une tâche, on doit être derrière cette personne pour vérifier est-ce que la tâche qu'on a confiée à la personne, est-ce que les équipes normalement, parce qu'aujourd'hui, depuis que le gouvernement est sorti, ça fait longtemps, et il y a certains projets ou bien certaines exécutions qui ont été confiées au ministre, et dont la première ministre devait commencer à faire le suivi. On ne va pas seulement commencer à attendre le chef de l'État faire le conseil des ministres, et maintenant il sait que non. On doit faire l'évaluation. Faire l'évaluation, c'est bien, mais moi, je vais acclamer cette évaluation, et c'est à partir des résultats. Les résultats, c'est quoi, monsieur Marcel? Les résultats, c'est pas seulement remanier, mettre la personne à côté puisqu'il n'était pas à la hauteur. Est-ce qu'il n'a pas fait des gaffes, qu'il n'a pas fait les infractions, dans ses fonctions? Est-ce que, quelle sanction qui sera réservée à ce ministre-là? Et vous savez, aujourd'hui, M. Marcel, le problème que nous avons, c'est quoi? Le problème de coalition, M. Marcel. Aujourd'hui, chaque ministre qui est recommandé là-bas, selon les coalitions, il travaille selon les injonctions de sa plateforme politique qu'il a envoyée là-bas. Aujourd'hui, son autorité directe, c'est la première ministre, peut lui donner des injonctions. Mais si ces injonctions-là ne vont pas dans les ne vont pas ensemble avec les injonctions qu'il a reçues auprès de sa plateforme politique qu'il a envoyée là-bas, c'est difficile que cette personne exécute. C'est ça le problème que nous avons, M. Marcel. Tant que la politique prend la justice en otage dans notre pays, M. Marcel, nous allons faire les évaluations. En tout cas, selon moi, le résultat sera toujours le même.
Voilà, alors, merci.
C'est sûr, on doit faire l'évaluation. Est-ce que la sanction, ce sera seulement remaniement ou bien c'est la personne qu'on doit trouver dans les capacités? Quelle sera la sanction que le président de la République va réserver à cette personne, M. Master?
Voilà, merci beaucoup, Maître Machaka. Depuis Lubumbashi, une réaction sur la page Facebook de Parole aux auditeurs, c'est celle de Marcel Maïki depuis Kananga. Merci pour la thématique si importante. À mon humble avis, il était mieux que le président puisse prendre des mesures après cette évaluation, de suspendre de ministres qui n'ont pas eu à satisfaire dans leur secteur. Une autre réaction, c'est également celle de José Kalala, Wakapuku, depuis Kananga. C'est une bonne pratique instaurée par le chef de l'État, mais après cette évaluation, quel que soit le résultat, il n'y aura pas d'amélioration, quand bien même les ministres ont été nommés sur base de leur poids politique. En revue au standard, Jérôme Mwamba est en ligne, encore une fois, depuis Lubumbashi. Et Jérôme Mwamba, vous avez la parole.
Oui, bonjour, monsieur Marcel, hein. Bonjour également à l'invité. Je trouve que, les jours passent. Et même en Ségrène, on a tendance à dire que on fait du surplace par rapport aux actions gouvernementales. Parce que moi, je me dis, depuis l'investiture de ce gouvernement, c'était le gouvernement le plus attendu de ce pays. Et nous, on pensait qu'avec ce deuxième quinquennat, ce second d'ailleurs, on pouvait voir les règlements, on pouvait régler certaines choses qui n'ont pas bien tourné dans le premier quinquennat, mais on se rend compte que vraiment, c'est de la figuration. Quand vous regardez même, parce que les gouvernements, il faut peut-être décentraliser les responsabilités. Quand nous regardons dans les provinces, on se rend compte qu'il y a peut-être certaines provinces qui sortent du lot, où vous trouvez les gouverneurs sont à l'œuvre, mais par contre, dans d'autres, c'est vraiment du surplace. Par exemple, on peut citer les Lalaba. Mais ici, chez nous, quand vous regardez aujourd'hui le Lubumbashi, par exemple, le Haut-Katanga, donc il y a beaucoup de choses à faire. Parce que il vous souviendra que il y a beaucoup de choses qui ne semblent pas peut-être bien marcher, ça nous disons, mais il faut que le gouvernement puisse normalement définir clairement la politique générale du pays et décentraliser les choses pour que le gouverneur les relaye dans les actions gouvernementales.
Mais Jérémy Mwamba, pour l'instant, on en est à l'évaluation de membres du gouvernement et j'espère que vous avez suivi les comptes rendus. Du porte-parole du gouvernement après la 21e réunion du Conseil des ministres, lorsque il a parlé de la présentation de par la Première ministre Judith Suminois d'un outil d'évaluation basé sur les orientations du chef de l'État permettant de faire la traçabilité des directives présidentielles, mais il a également ajouté dans ses comptes rendus cet outil constitue un instrument précieux pour mesurer les progrès réalisés dans l'application des politiques gouvernementales et dans l'identification des obstacles éventuels à la mise en œuvre. Comment appréciez-vous, qu'est-ce que vous pensez de cette précision?
Oui, nous, l'évaluation, oui, monsieur Marcel. Mais c'est vraiment, si nous voulons coter réellement chaque ministre pour voir ce qu'il a eu à faire par rapport au gouvernement général, nous disons qu'il y a une insuffisance totale des notes. Il n'y a pas de résultats satisfaisants aussi longtemps que les routes de dessertes agricoles sont aux arrêts. Il n'y a rien qui fait. Ils sont à l'arrêt total. Et il fallait peut-être voir que ce sont des secteurs pareils qui pouvaient libérer ce Congo, les secteurs agricoles. On parle bien, rentrons aux champs. Mais que fait le ministre tutelle? Rien du tout. La population, lui, est affamée. Il a besoin de manger.
Mais il n'y a rien qui est fait concrètement. Le gouvernement et plutôt la population a besoin des routes.
Voilà, Jérémy. Certainement, vous saluez cette évaluation, j'imagine, comme ceux qui vous ont précédé, mais j'insiste encore, je précise, il y a des directives qui ont été données. Cette évaluation va permettre, par rapport aux différents rapports qui seront donnés, par rapport aux recommandations qui ont été faites lors de tous les conseils de ministres, de voir quels sont les obstacles qui ont fait que les choses ne marchent pas comme il se devait. Et peut-être, on verra bien s'il s'agissait simplement du casting, si, ou par contre, il y avait des obstacles, tout ça peut peut-être pourra faire l'objet des observations qui pourront permettre de voir comment évoluer dans les bons sens pour le bien-être du pays. Merci Jérémy Mwamba depuis Lubumbashi. Je reviens à... Non, il y a un auditeur qui est en ligne, c'est Christian KCC depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Christian, vous avez la parole.
Oui, merci, cher animateur de l'émission. Je suis intéressé par la thématique, mais pour aller tout droit au but,
oui.
Nous croyons que l'initiative du président de la République d'évaluer trimestriellement l'action gouvernementale, elle est opportune, en fait qu'elle répond à l'un des principes du budget, en l'occurrence, c'est celui de la performance publique. En réalité, toute action gouvernementale doit être performante. Elle ne peut l'être que si les objectifs assignés au TPAP. Ceci dit que tous les projets qui peuvent se retrouver dans la loi de finances de l'année, une fois financés par les crédits du budget, doivent réellement être réalisés. Et cela ne peut que l'être si ils sont évalués. Mais si on n'évalue pas de façon permanente les politiques gouvernementales, je crois que nous serons en train de contourner. De tourner à rond et la conséquence est que on va dilapider les fonds publics pour rien. Néanmoins, notre crainte est celle de croire que cette évaluation peut être complaisante, en ce que le président de la République, qui lui-même, dans les temps, a eu à montrer qu'il soutient incontestablement cette ministre, quoi qu'il soit défaillant, il pourrait encore tomber dans cette bêtise et en réalité, il va demeurer lui-même la pire et la meilleure des choses. Donc, si l'évaluation sera faite, il faut qu'elle soit en toute indépendance et objectivité, en fait qu'en réalité, les fameux programmes ou la fameuse vision du chef de l'État soit matérialisée. Nous croyons qu'il n'a aucun intérêt à être lui-même le blocage.
Voilà, merci Maître Machaka. Pour vous, il faut une évaluation qui puisse faire sans complaisance. Merci d'avoir appelé depuis Kisangani, Christian KCC. Kisangani, vous avez appelé donc depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. On sort en vent dehors de nos frontières pour retrouver encore une fois depuis Vienne en Autriche. Franck, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vos amis qui se sont déjà exprimés. C'est un élan positif. On demande à chacun des ministres de se faire évaluer et de se soumettre à chaque évaluation. Parce que partout où l'on veut atteindre des objectifs palpables, il faut qu'on se soumette à ces devoirs ou cette contrainte de redevabilité. Et seulement par rapport à ce que nous connaissons chez nous, on a souvent bien commencé, mais après il n'y a plus rien. Et ça ne doit pas seulement se réduire à ce qui se dit ici pour le cadre de ces magazines, mais même quand on lance des projets chez nous, on peut concevoir un grand projet, on a fait du marketing, on donne des promesses, on les lance avec beaucoup de publicité, devant beaucoup de caméras. Mais une fois lancé, personne ne s'occupe du suivi. Que le projet ait été convenablement réalisé, que l'argent ait été convenablement utilisé, que le travail réalisé soit de qualité ou pas, dans la plupart des cas, ça n'intéresse plus nos gestionnaires. Et aussi par rapport à ceux qui sont souvent nommés au sein de l'exécutif, c'est seulement leur présence qui compte. Quand ils sont nommés, ils cherchent peut-être à se trouver deux, trois journalistes qui parleront d'eux, mais parfois, de l'intérieur de ce qu'ils doivent faire, il n'y a vraiment plus rien. Et le plus grand problème, comme beaucoup d'amis venaient de le dire, c'est d'abord de chercher à nous demander... Tous ceux qui se retrouvent au sein de ce gouvernement répondent-ils au profil attendu par ce qui est voulu par tout le monde. Et si la plupart se retrouvent là seulement sur base des alliances et des calculs politiques, mais mon ami Marcel, qu'est-ce qu'on attendrait d'un homme qui se retrouve au sein du gouvernement qui est sur base des calculs et qui sait à qui il raconte au demeurant? Il ne travaille pas pour le peuple, il sait qu'il est là parce qu'on a signé telle alliance avec telle. Et maintenant qu'on parle de l'évaluation, il peut même arriver que celui qui est en place ne réponde pas, mais on verra encore que les mêmes seront remplacés par le même. Mais déjà, si vous avez un gros véhicule qui doit démarrer pour une longue distance et vous savez en amont que la plupart des pièces sont déjà en panne et toutes ces pièces qui sont en panne ne sont pas encore convenablement remplacées, comment pouvez-vous espérer à ce que les voyages puissent être convenablement réalisés? C'est à ce niveau-là qu'on a toujours demandé qu'on prime d'abord la méritocratie au lieu de la complaisance, au lieu du clientélisme. On doit chercher à évaluer les gens maintenant, mais est-ce que ne devait-on pas d'abord examiner s'ils répondaient à tous les critères avant de les nommer? Parce qu'il y en a qui sont là-bas, mais on a vu qui sont dans ce gouvernement. On les respecte, ils sont là. Mais est-ce que tout le monde qui est là répond? Parfois, quand on analyse comme ça, en émettant des avis vraiment critiques, on nous taxe de tout. Mais comment nous allons peut-être fermer les yeux quand nous voyons comment nous sommes en train de faire des surplaces? C'est bien ce souci-là. On espère que ça sera convenablement fait. Mais nous savons un peu comment ça s'est fait chez nous. Mais comme il ne faut pas toujours s'exprimer sur base de pessimisme, mais voyons voir, accordons-leur encore les bénéfices de nos doutes. On verra comment ça va se passer. Mais si je dois voir combien se sont déjà exprimés, c'est le scepticisme, parce que nous savons comment ça s'est fait chez nous.
Voilà, merci Franck de vous rappeler depuis Vienne-là. Je comprends également pour vous, il faut une évaluation sans complaisance et surtout chaque fois qu'il y a un casting pour nommer les membres du gouvernement, même si on est dans une plateforme politique avec différents partis politiques. Vous insistez tous sur la compétence. Et je me rappelle bien, c'était l'un des critères qu'avait d'ailleurs annoncé la première ministre Judith Suminwa lors de la prise, lorsqu'elle a été nommée, que ce sera parmi les critères qui seront pris en compte pour la nomination des membres du gouvernement. On revient à notre invité Frédéric Amani. Vous avez suivi les uns les autres. Il y a ceux qui ont parlé d'une évaluation sans complaisance. Il y a ceux qui ont estimé qu'il y aurait évaluation, mais ça ne changera pas les choses. Et il y a ceux également qui pensent que déjà, chaque fois qu'il y aura un mauvais casting au départ, même si on arrive à évaluer, ça posera toujours problème parce qu'il faut absolument dès le départ faire un bon casting. Frédéric Amani.
Bien, merci beaucoup. Je salue les réactions des uns et des autres. Et comme nous l'avons aussi dit avant, que ça risque d'être une évaluation avec beaucoup de complaisance où on va se contenter de passer à cette évaluation, mais les recommandations, les résultats seront peut-être mis dans les tiroirs, malheureusement. Alors, un autre élément important qu'il faut ajouter par rapport aux réactions des uns et des autres concernant la prochaine évaluation des membres du gouvernement, je pense qu'il y a lieu aussi de s'interroger sur un plan opérationnel d'exécution des programmes gouvernementaux dans chaque secteur. Est-ce qu'il y a eu un plan opérationnel à court ou à moyen terme? Par exemple, les ministres, c'est depuis juin. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 mois qu'ils sont là. Est-ce qu'il y a eu un plan opérationnel? En disant, par exemple, je prends au hasard le ministre de l'Agriculture ou le ministre de la Défense ou le ministre des Affaires étrangères, vous êtes nommé dans 3 mois. Le gouvernement et l'ensemble du peuple congolais, attendez-vous dans 3 mois, dans 4 mois, un certain nombre de résultats. Et sur base de ça, on va évaluer si tel ministre a bien travaillé ou tel autre n'a pas bien travaillé. Je crois qu'un plan opérationnel à court ou à moyen terme va aider à ce que l'évaluation
se passe très bien et apporte des résultats attendus, que ce soit pour le président de la République et l'ensemble du peuple congolais. Un autre élément, c'est vrai, je ne vais pas reprendre ce que M. Amos Bissimwa ou Patrick Odia ont repris. Cette évaluation risque d'être stratégique dans la mesure où, avec tout ce qu'il y a comme, n'est-ce pas, tractation, que ce soit pour la révision constitutionnelle ou quoi que ce soit, eh bien, on veut juger, n'est-ce pas, l'efficacité des membres du gouvernement par rapport à la réalisation, lesquelles réalisations doivent être en adéquation avec la le programme ou la vision du chef de l'État. Donc, je pense que cette évaluation est beaucoup attendue et elle doit, n'est-ce pas, apporter un éclairage sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, sur base d'un plan, j'insiste là-dessus, sur base d'un plan opérationnel à court terme. Quand les ministres sont entrés en fonction, je pense, Madame la Première Ministre, devrait leur dire, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 4 mois, nous attendons de vous telle réalisation. Et sur base de ça, on va voir si tel ministre a fait, c'est vrai, on l'a toujours décrié qu'un gouvernement budgétivore avec 50aine de membres, c'est énorme par rapport aux défis que la RDC connaît et par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qu'on connaît comme situation. Je pense qu'il y a lieu de réduire le nombre du gouvernement et de permettre à ce que, n'est-ce pas, qu'on ait un nombre réduit. Et sur base de ça aussi, on saura bien évaluer. Parce que on risque d'assister à un chevauchement où il y a telle activité qui est reprise encore par tel ou tel ministère et on ne saura pas évaluer tel ministre par rapport à telle activité parce qu'il y a un chevauchement. Je crois que la réduction du nombre de ministres va permettre à ce que la prochaine évaluation puisse apporter des résultats escomptés et que cela soit, n'est-ce pas, en faveur du peuple congolais, en faveur de l'émergence de la RDC. Pas une évaluation pour punir ou sanctionner les uns contre les autres, mais une évaluation pour permettre à ce que les citoyens congolais, les travailleurs des Congolais, parce qu'on ne les dit pas assez, les ministres ou les dirigeants congolais sont des travailleurs congolais. Ils travaillent pour le bien des peuples congolais. Même si parfois on assiste, n'est-ce pas, au renversement de la pyramide. Voilà comment on peut analyser la prochaine évaluation que le peuple congolais attend avec beaucoup de patience et que ce soit une évaluation sans complaisance, une évaluation qui va permettre à ce que le pays aille de l'avant et que les promesses du président de la République soient réalisées pour le bien de la RDC.
Frédéric Amann, on vous garde toujours en ligne. Le temps pour nous de revenir au standard. Pour écouter tour à tour Simon Silolo qui nous appelle depuis Matadi au Congo central également, Maître Marc Igalou qui est à Kinshasa. Nous commençons avec Simon Silolo depuis Matadi au Congo central. Simon Silolo, vous avez la parole.
Merci beaucoup à la radio Okapi et merci à tous les intervenants. Je suis Simon Silolo, Sinecat Congo central. Nous avons été intéressés par le sujet, mais je pense que la réflexion telle que faite par nous par rapport au sujet, nous avons voulu le situer par rapport au départ. Parce que lorsqu'on veut faire une évaluation, même dans une classe, il fallait qu'il y ait un départ, qu'il y ait des enfants préparés pour ça. Regardez le principe philosophique qui dit clairement que lorsque la prémisse est fausse, la conclusion sera également fausse. Observez comment se fait le recrutement ou comment se fait la nomination. C'est de là où nous devons partir. On nomme les gens qui sont des récompensés politiques, des gens qui ont milité pour des partis politiques et la méritocratie vient en second lieu comme critère de recrutement. Faut d'abord être dans un ensemble, faut d'abord être dans une famille, faut d'abord être, et la méritocratie vient en second lieu. Ce qui fait que les animateurs, dès qu'ils sont nommés, ne représentent pas la préfiguration de réaliser les indicateurs qui lui attendent dans ce ministère. Parce que si nous prenons la nomination comme prémisse, et que la évaluation comme conclusion telle que ça se passe chez nous dans notre pays, vous allez déjà comprendre le résultat qui nous attend. Bref, pour dire que le système de nomination des ministres est basé sur les récompensés du militantisme politique biaise déjà les résultats des évaluations. D'où il y a nécessité de réfléchir, de tirer dans nos ménages un système d'encadrement. Donc lorsque on nomme, il faut qu'il y ait un système d'encadrement qui accompagne les ministres par rapport aux indicateurs qu'ils devraient atteindre. Et dès que nous faisons ça, le ministre est obligé de suivre les orientations qui lui sont données. Parce que vous imaginez, lorsque vous prenez des récompensés politiques, quelqu'un qui a fini en économie, et il est licencié en économie, qui milite dans un parti politique, mais qui ne travaille pas, qui n'applique pas ses principes d'économie après 20 ans, après 15 ans. Et lorsque le parti politique prend le pouvoir et qu'on sait qu'il est licencié, on le nomme.
Alors dites-nous, Simon Cirillo, puisque pour vous la prémisse de départ est déjà fausse, cette évaluation a sa raison d'être ou non?
Oui, l'évaluation pouvait être là, mais il va falloir à la prochaine qu'on commence d'abord par le recrutement. Les profils des ministres, ce qu'il doit être en avance pour avoir des partis politiques, et puis les faire accompagner par un système d'encadrement.
Voilà, merci beaucoup Simon Cirillo. Merci, vous l'avez dit, les faire accompagner par un système d'encadrement. Prochainement, il faut déjà dès les départs faire un très bon casting qui va se baser sur les compétences et la méritocratie. Merci Simon Cirillo d'avoir appelé depuis Matadio, Congo Central. On revient à Kinshasa pour retrouver Maître Marquis Gallo. Maître Omar, vous avez la parole.
Merci Monsieur Marcel du verbe que vous m'a dupé. Félicitations à tous ceux qui ont parlé avant moi. Avant tout, je félicite Madame Soumouna, car depuis l'indépendance, c'est mon avis et je crois beaucoup le partage. C'est pour la première fois que de manière formelle qu'on puisse évaluer l'activité gouvernementale. Vous avez demandé ou posé une question pertinente. Est-ce que c'est important d'évaluer? Oui, en management public et en économie moderne, tout projet sérieux pour être réalisé peut être évalué de manière épisodique. L'évaluation permet plusieurs choses. Premièrement, d'apprécier les efforts fournis, de les capitaliser, de constater les faiblesses, de dénicher les causes de ces faiblesses et pourquoi pas projeter des perspectives meilleures. Et ce qui est important, c'est qu'il faut tirer les conséquences qui s'imposent après cette évaluation, soit positives en encourageant ceux qui ont bien travaillé, soit négatives en remplaçant par les compétents. Mais j'ai un souci, monsieur Marcel. J'encourage Madame la Première Ministre ainsi que le gouvernement entier, mais si elle nous suit, qu'elle tienne compte des dépesanteurs politiques et économiques qui peuvent empêcher, on peut évaluer et qu'il n'y ait pas de sanctions. La première pesanteur est politique. Monsieur Tchilou l'a dit, on sait comment les gens ont accédé au poste ministériel. Aujourd'hui au Congo, on nomme pas quelqu'un sur base des compétences, on nomme sur base des quotas politiques. Et ces quotas sont dictés par les leaders des partis politiques. Le président doit protéger son union sacrée. Les voyez-vous de manière courageuse faire partir un ministre incompétent après l'évaluation? On doit étudier cette pesanteur politique qui atrophie notre pays. La deuxième pesanteur, c'est la pesanteur économique. On peut évaluer, on peut changer de ministre. Mais il y a trois fléaux qui bloquent notre économie. Les taux d'inflation élevés, les taux d'échange, ainsi que la corruption. Nous encourageons, monsieur Marcel, cette évaluation, mais qu'on tienne compte de ces dépesanteurs. Pour finir, moi je pense, madame la première ministre, si elle nous suit, l'efficacité du gouvernement qui a la mission d'exécuter les lois se repose sur trois choses. Premièrement, la volonté politique de ceux qui ont été nommés. Aujourd'hui, on parle d'Henri Thomas Lokondo, de Gérard Bakajika, de Matata Ponyo. Ce sont des gens comme nous qui ont été nommés et qui ont laissé des traces. Un minimum de volonté politique suffit pour faire de bonnes choses. Moutambala démontré, Doudou Fombalé démontre. Deux, il faut un contrôle politique, l'évaluation interne. Mais la loi a prévu des mécanismes et des contrôles gouvernementaux pour l'efficacité des résultats. Le contrôle politique doit être fait par les parlements. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu des sanctions sérieuses contre les membres du gouvernement. Les contrôles juridictionnels, lorsqu'on détourne, lorsqu'on dénonce, ça finit par des arrestations et on libère les détourneurs. Les contrôles techniques et fait l'IGF et les rapports de meurtre dans leur tiroir. Et enfin, il faut un sursaut patriotique. Là, je voudrais m'adresser au président de la République. Vous êtes les garants de la nation et non les garants de l'union sacrée. Si après l'évaluation, il se trouve que des ministres sont incompétents, pour les salis des peuples que vous avez toujours décrits comme étant la loi suprême, faites partir les incompétents. Voilà ma petite contribution, le temps fait défaut. Je vous remercie.
Merci à vous, Marc Higuel. On va prendre le tout dernier. Si Jérôme, depuis le Lubumbashi, Jérôme, vous avez une minute.
Je vous remercie pour la parole. Je vous remercie. Le contrôle et la confiance n'expliquent jamais le contrôle. S'il confie ce qu'il nomme, il peut le contrôler. Et s'il n'y a pas de contrôle, il sera foutu.
Voilà, merci à Jérôme depuis le Lubumbashi. Il faut absolument le contrôle, puisqu'on le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle, donc vous êtes bien d'accord pour cette évaluation. On va conclure avec notre invité Frédéric Armani. Frédéric, vous l'avez dit, le casting c'est important, la méritocratie c'est important, l'évaluation c'est important, et surtout le faire sans complaisance, comme ça on pourra améliorer les choses. Frédéric Armani, vous avez la parole pour votre conclusion rapidement.
Ma conclusion s'articule sur ce point.
Oui.
La RDC, où le salut du peuple est une loi suprême, le président l'a toujours dit, la RDC est plus importante que quiconque en privilégiant l'intérêt général. Nous saluons l'initiative de Monsieur le Président de la République et Madame la Première Ministre. Nous souhaitons que cette évaluation se fasse sans complaisance, en privilégiant l'intérêt général, en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que le monde nous regarde, le monde nous observe, et le peuple congolais compte beaucoup sur ses dirigeants pour apporter, n'est-ce pas, le meilleur d'eux-mêmes sur base des promesses qu'ils ont eu à faire. Et la bonne gestion axée sur les résultats tient compte des respects des normes, des respects des textes, des principes dans chaque secteur. Sur base d'un plan opérationnel, on va évaluer le ministre seront compétents par rapport aux réalisations qu'on attend d'eux dans chaque secteur. Et voilà comment nous pouvons analyser cette évaluation que nous attendons avec beaucoup de patience, et nous souhaitons que ça soit une évaluation sans complaisance pour l'intérêt général et non pour punir les uns contre les autres. Le Parlement, comme la représentation du peuple, a aussi un grand rôle à jouer en interpellant les ministères ou les ministres qui ne vont pas s'aligner dans la vision selon le plan du gouvernement. Voilà comment nous pouvons analyser, tout en souhaitant, n'est-ce pas, que nos dirigeants continuent à fournir les efforts qu'ils font pour permettre à ce que le pays aille de l'avant.
Merci beaucoup Frédéric Armani. Je rappelle que vous êtes analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Lubumbashi. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci, cher Marcel.
Fin de ce numéro de Paroles aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita qui est à la mise en onde, à Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé aux coordonnées micro. C'était Marcel Gomoba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.